Un quart de siècle après son accident mortel le 1er mai 1994, le mythe Ayrton Senna perdure. Secret, intense, parfois mystique, ce seigneur de la Formule 1 a autant marqué les esprits pour son talent surnaturel que par sa personnalité hors norme. Pendant près de 15 ans, le journaliste Pierre Van Vliet a couvert les exploits du pilote brésilien, mais il a également été le témoin de sa vie hors des circuits. Aujourd'hui, il retrace l'itinéraire du triple champion du monde dans une série de podcasts qui vous emmène de Sao Paulo à Imola en passant par Monaco et Suzuka. Dans les pas d'Ayrton Senna, un récit de Pierre Van Vliet et Andy David, voix off Marie Lizac, son Romain Rivreau. Épisode 8. Imola, la Formule 1 sous le choc.
Au printemps, Imola est un endroit charmant. Une petite rivière, le San Terno, coule paisiblement sous le soleil, le long de l'autodrome Enzo e Dino Ferrari, situé près de Bologne, en Italie. Pour accéder au circuit, qui serpente sur les premiers contreforts des Apennins, on emprunte un petit pont. À quelques centaines de mètres, les tifosi sont massés sur la colline de Rivazza. Habillés de rouge, ils espèrent voir la victoire d'une Scuderia, alors au creux de la vague. En face, on regarde les monoplaces passer sur les balcons d'immeubles couverts de toits à faible pente. Le 29 avril 1994, Ayrton Senna arrive sur le circuit avec l'envie de mettre fin à une mauvaise série de résultats. Mais ce week-end-là, c'est une onde de choc qui attend le monde de la Formule 1.
Fin 1993, Williams annonce l'arrivée d'Ayrton Senna en son sein. Tout le monde pense alors que cet attelage est fait pour dominer la F1.
Bien sûr. Je me souviens, story de la présentation de la voiture, etc. Bon. Alors, le seul qui avait un léger doute, mais bon, on se disait qu'il n'était pas, il était pas très objectif, c'est Alain Prost. Je me souviens d'une scène à Bercy, au master de karting que Philippe Streiff organisait, et où Ayrton était venu, et où Alain, qui avait raccroché son casque symboliquement, participait, et où d'ailleurs Alain et Ayrton, pour la première fois, enfin, ça avait déjà été le cas à Adélaïde après la course, où il y avait eu vraiment ce rapprochement sur la première page du podium, et puis la conférence de presse où ils s'étaient bien marrés en se moquant de Ron Dennis tous les deux, et ils s'étaient parlé et tout. Ayrton était vraiment au top. Et il savait qu'il avait ce volant et qu'il allait avoir droit à son bout de gras, à son pain blanc après avoir mangé le pain noir. Et Alain, disons, avait, contre mauvaise fortune, bon cœur, avait renoncé à réaffronter Ayrton dans la même équipe et avait préféré s'écarter, mais sans amertume, sans rancœur du tout. Du coup, il y a eu une certaine, sinon amitié, du moins le respect est apparu plus fort que dans leur période de confrontation. Et à Bercy, au karting, c'était vraiment des potaches, des copains de régiment qui se retrouvent. Moi, je me souviens dans le vestiaire où on se charge, vous imaginez, c'était un peu le Boy Scout, et ils se marraient, ils se taquinaient. Et j'ai pu assister à cette complicité naissante entre les deux féroces adversaires qu'ils avaient été auparavant. Et donc, le seul qui avait un doute sur la Williams-Renault pour 94, c'est Alain. Et Alain lui avait dit, je me souviens. Et puis, les premiers Grands Prix se déroulent, on connaît l'histoire, Ayrton en tête à queue à
Interlagos,
Schumacher au Basque, Ayrton qui fait la pole à Haïda au Grand Prix du Pacifique et puis qui se retrouve dans un accrochage idiot au premier virage. Et du coup, il est en bord de piste à l'épingle. Et comme il a ce doute qui le ronge sur la Benetton de Schumacher, et moi, il se fait que j'étais pas loin, je vois qu'il reste là. J'étais à l'entrée des stands, mais je viens à pied avec mon micro HF sous le bras, TF1, et je le rejoins, et il me dit, écoute la Benetton. Écoute, sorti de l'épingle. Et alors, effectivement, on entendait le moteur qui ratatouillait, signe, selon Ayrton, évidemment, d'un anti-patinage qui avait été interdit, interdit par le règlement cette année-là, et il dit, triche et tout, c'est pas possible, il a une motricité incroyable, il faut porter réclamation, je vais voir Franck. Et donc il rentre dans les stands furieux, il va voir Franck et Patrick Kane en disant, il faut aller à la direction de course, il va d'ailleurs d'abord à la direction de course, mais il fallait que ce soit Williams qui porte réclamation et pas le pilote forcément, Williams n'a pas voulu le faire, Ayrton était fâché. Et franchement, il y avait la confiance ne s'est jamais installée chez Williams avec Ayrton. Et Patrick. Et chez Williams, ils arrivaient d'une telle période de domination que pour eux, le pilote devait s'adapter. Hein. Et Franck a toujours eu une notion, les pilotes, c'est un autre ustensile de la voiture. Hein. Il a cette expression horrible, il dit « drive, racing drive, you just plug another one in ». Hein, donc voilà, ça se remplace. Quoi, hein, c'est pas, Et donc, bon, Senna qui arrivait avec son aura et son statut de mégastar, il était un peu étonné, alors que chez McLaren, il était chouchouté et porté au nu et sur un piédestal, et chez Williams, il était juste un autre employé. Et ça, ça le surprenait. Et puis, au-delà de ça, techniquement, la voiture ne marchait pas. Et il y avait quand même... moi, je connais bien David Brown, qui était son ingénieur de piste, qui avait été l'ingénieur d'Alain auparavant, de Nigel et d'autres. Et puis, il y avait Adrian Newey, quand même, qui était le vrai cerveau hein, de cette voiture. Et Patrick Head, avec toute son expérience et son volume de d'expertise, eh bien, il se perdait en conjecture. Et à Imola, ils arrivaient toujours pas à mettre le doigt sur ce qui marchait pas. Et voilà, ça a finalement mal tourné. Pour des raisons, il y a une part de fatalité là-dedans, évidemment. Hein, mais la colonne de direction, par exemple, c'est vrai que c'est Senna qui a, avec David Brown, insisté pour en réduire la rendre plus mince, quoi, parce qu'il avait un problème avec ses genoux, il touchait. Et voilà. Alors, est-ce que c'est ça qui a rompu? Après coup, c'est facile à dire, parce que voilà, mais il y a eu le choc, donc est-ce que c'est la colonne de direction brisée qui a provoqué la sortie de route, ou est-ce que c'est l'impact de l'accident qui a brisé la colonne de direction? On ne saura jamais.
Après le Brésil et le Japon, la Formule 1 arrive à Imola pour le Grand Prix de Saint-Marin en 1994. Dès le vendredi, Rubens Barrichello est victime d'un grave accident. Rubens Barrichello, c'est un petit peu le protégé d'Ayrton Senna.
Oui, c'est vrai, et il y a une espèce de malédiction qui s'abat sur la F1 ce week-end-là, et même cette saison-là, parce que les voitures étaient limites, le règlement faisait que on était arrivé à des limites physiques presque. Il y a eu des accidents très violents déjà en essai privé avant la saison et pendant et après Imola. Bon, il y a une forme aussi de loi des séries, quoi. Alors, Rubens Barrichello, c'était effectivement il avait 20 ans, Rubinho. Et pour Ayrton, forcément, c'était son successeur désigné. Rubens le vénérait, enfin. Et puis bon, la violence de l'accident de Rubens, c'est le fait qu'il se soit quand même fait mal, il soit blessé. D'abord, il y a eu une petite période de doute où on s'est dit, mais hein, comment est-ce qu'il va sortir d'un crash pareil? Et puis après, bon, il est revenu de l'hôpital et il était dans le plâtre, il était quand même un peu choqué. Donc Ayrton avait quand même été un peu secoué par ça. Puis le lendemain, il y a ce terrible accident de Roland Ratzenberger. Alors bon, comme c'est un gars qui est en dernière ligne, que personne ne connaît, l'impact, je dirais, en dehors du circuit ou dans le grand public est peut-être pas ce qu'il aurait dû être. Je peux vous dire qu'à l'intérieur du cirque, dans le paddock et dans les garages, ça voulait dire mort d'homme sur un circuit de F1. C'était pas arrivé depuis Elio De Angelis en essai privé, donc depuis plutôt Villeneuve-Paletti, il fallait remonter 12 ans avant, donc une génération entière. Ayrton n'avait jamais connu de pilote mort sur un Grand Prix. Et toute sa génération non plus, évidemment, à l'exception peut-être d'Alain ou de quelques vétérans. Donc, ça a beaucoup choqué. D'ailleurs, Ayrton est allé sur les lieux du drame pour comprendre ce qui s'était passé. Les commissaires ne voulaient pas qu'il passe, mais il n'en avait rien que faire. Il était avec Sid Watkins, le prof, hein, le médecin. Il était très, très, très traumatisé, vraiment, par cet accident. Il est quand même remonté dans l'auto pour faire la pole, parce qu'il fallait faire le boulot. Mais on sentait que c'était à contre-cœur, déjà. Et je me souviens d'un autre accident, une prise de conscience peut-être du danger et du risque physique. C'est à Jerez en 90, je crois, avec l'accident de Martin Donnelly avec la Lotus. Et là aussi, Ayrton avait été sur place voir, essayer de comprendre ce qui se passait. Et puis, était remonté dans la voiture pour faire la pole. Et puis, en nous expliquant après, il était très secoué, très ému. Et le seul moyen de passer outre, c'était de remonter dans l'auto, de serrer les ceintures et de mettre les gaz. Ce qu'il avait fait à Imola aussi.
Bonjour à toutes et à tous, et si vous prenez l'écoute de TF1 à cet instant, bienvenue à Imola. Bonjour Alain Prost, bonjour Johnny Rive. Aujourd'hui, nous aurons un instant de recueillement à la mémoire de Roland Ratzenberger, qui s'est tué il y a...
Ce dimanche 1er mai, vous êtes dans la voie des stands pour TF1. On s'en doute, il règne le jour-là une ambiance un petit peu particulière à Imola.
Oui, parce qu'il y a eu l'accident de la veille, et le samedi... Une chape de plomb était vraiment tombée sur le paddock à Imola. Et Ayrton avait la tête des mauvais jours, vraiment des mauvais jours. Et je me souviens parce qu'il se fait que par hasard, j'étais au même hôtel que lui. J'étais avec un ami, on était venu de Monaco. Et comme Ayrton était avec sa bande, hein, les Brésiliens, les Portugais aussi, il dînait à la table à côté. Quoi, et donc, il y avait toute la bande... Braga, il y avait Celso Lemos qui était son homme d'affaires, il y avait son frère Leonardo qui était là, il y avait Bétis, Béatrice Assempson, son attaché de presse. Enfin bon, c'était le clan Senna quoi qui était réuni. Mais Ayrton n'est pas venu manger avec eux. Il est resté dans sa chambre. Joseph Leberer, le physio, l'entraîneur personnel d'Ayrton est descendu, nous dit Ayrton ne viendra pas, il mange un plat de pâtes, il veut aller voir Franck, il va parler avec Franck dans la chambre. Donc on était vraiment... Et les copains brésiliens étaient à peu près convaincus qu'il n'allait pas courir au Grand Prix le lendemain, qu'il n'était pas en état, y compris psychologiquement. Et le lendemain matin, moi je me souviens, j'ai pas vu Ayrton le matin, mais dans le parking en quittant l'hôtel, je tombe sur Frank Williams et je lui demande, bon, est-ce qu'Ayrton va courir? Alors Frank, il est of course, hein, bien sûr qu'il va courir. Voilà, c'est la course, c'est un professionnel. Et bon, c'était pas aussi clair que ça. Donc Ayrton, il y va, mais un peu contraint, forcé. Enfin, en tout cas, conscient, pas envie de courir, mais le poids des responsabilités, les contrats et même son rôle dans la F1 ou avec Williams. J'en ai pas parlé avec lui, pour être honnête, mais il a parlé avec Viviane Senna ce matin-là, au téléphone. Viviane était au Brésil. Et il a vraiment confié à Viviane le fait qu'il voulait pas courir, il voulait pas y aller, mais qu'il était obligé, mais qu'il pouvait pas faire autrement. Et Viviane, ils ont prié ensemble. Enfin bon, on revient là dans cette dimension un peu mystique du personnage. Et Viviane nous a confié ça quand on a fait le film, voilà, qu'elle lui a lu la Bible et que voilà, ils se sont donné du courage mutuellement. Et Ayrton est parti, voilà là. La fleur au fusil, mais son attitude, hein, ce matin-là, au briefing des pilotes, et puis sur la grille, le fait qu'il enlève son casque, ce qu'il faisait jamais, 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 en 10 ans des fins, il n'avait jamais fait, et qu'il affiche, hein, sa mine, sa détresse, quoi, hein, sa tristesse, c'était particulièrement impressionnant.
À 14h, le départ du Grand Prix est donné, la Lotus de Pedro Lamy heurte violemment la Benetton de Gigi Leto. À ce moment-là, on se dit qu'il y a une série...
Oui, la malédiction continue, hein, parce que l'accident est très violent, et comme il se passe sur la ligne droite de départ, tout le monde le voit, il assiste, et tout le monde entend. Moi, je me souviens encore du bruit, le choc, et les morceaux de carbone qui virevoltent, une roue qui part dans la foule, dans la tribune en face, il y a eu des blessés d'ailleurs. Donc vraiment, c'était le carnage, quoi. Alors c'est vrai que pendant ces quelques tours, les pressions, la pace car était vraiment très lente, hein, c'était pas encore des voitures puissantes comme c'est le cas aujourd'hui, et la pace car portait mal son nom donc, hein, c'était plutôt la slow car, et du coup Ayrton voulait qu'elle aille plus vite, enfin on a quelques témoignages de ça, parce que les pressions de pneus entre autres souffrent du fait que voilà la température baisse, les voitures vont pas assez vite pour maintenir les pneus en température. Alors est-ce que c'est un des éléments qui peut avoir joué dans l'accident? Bon, on sait que l'approche de Tamburello est bosselée, certains ont vu des étincelles un peu plus qu'au tour d'avant, etc., etc. Donc, bon, on sait que la lumière sera jamais vraiment faite parce qu'il y a eu une enquête qui a duré 10 ans et que tous les éléments étaient scannés, passés au peigne fin, mais que voilà, il y a une forme de fatalité.
À 14h17, la Williams aborde le virage de Tamburello. Qu'est-ce qui se passe après?
Voilà, on n'en sait rien, je pense. Et il y a encore des gens qui sont rongés par ce doute, y compris Adrian Newey, par exemple, qui a été traîné devant les tribunaux en Italie pendant des années.
L'ingénieur de l'équipe Williams.
Oui, oui, Patrick Head a beaucoup souffert de ça aussi. Il faut savoir que Patrick, après ça, n'était plus tout à fait le même, même si les Williams ont continué à dominer avec le moteur Renault, l'époque des Monil, Villeneuve, etc. Et curieusement, Patrick Head, pour l'anecdote, hein, a épousé en seconde noce Béatrice Assumpson, justement, l'attachée de presse, c'est plutôt la personal assistant, comme on dit, d'Ayrton Senna, donc une brésilienne. Et donc, il a vécu dans le souvenir de Senna, dans la mémoire de Senna. Ils avaient une maison à Sao Paulo. Et Patrick a, quelque part, pris du recul sur la F1 et a fini par vendre ses parts et a quitté le navire Williams, quoi. Une des conséquences de cet accident. Alors bon, tout le monde sait en tout cas que c'est pas une faute de pilotage parce que c'est pas un virage, hein, ça passe à fond, il y a pas de questions à se poser. Après, il y a certaines hypothèses. Ça peut être une crevaison, ça peut être la pression, ça peut être la colonne de direction, ça peut être tout ce qu'on veut. Ça ne sera jamais totalement démontré. Après tout, hein, ça ne nous rendra pas Ayrton Senna.
La voiture heurte le mur, puis s'immobilise au bord de la piste. Vous êtes dans les stands pour TF1. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous entendez?
Le problème, justement, c'est que je vois rien et j'entends rien. Et qu'on est dans cette spirale négative de ce week-end complètement dingue. Et donc, moi, je suis un peu dans le déni, pour être honnête. J'entends hein, que c'est grave. Je vois pas vraiment les images, parce que vous savez, dans les stands, on court d'un endroit à l'autre, on va au centre médical, on va à la direction de course, on revient chez Williams, on cherche des infos. On n'est pas le nez sur l'écran. Par contre, j'entends dans le casque que la voix d'Alain, le ton de la voix d'Alain Prost, qui commentait pour TF1, que le ton de la voix d'Alain change et qu'il est extrêmement grave en découvrant les images de la voiture et de Ayrton quand on l'extrait. Et là, je me dis, bon, c'est vraiment grave. Mais j'étais vraiment dans le déni, parce que c'était tellement impensable.
J'ai d'autres nouvelles,
oui, Pierre.
Jean-Louis Moncey, ici depuis le paddock, chez Williams-Renault. Il semblerait effectivement que Ayrton Senna souffre de traumatisme crânien multiple, même d'une fracture du crâne, fracture de l'épaule.
Alors j'avais une collègue sur Canale Cinque en Italie, qui avait ses réseaux, qui connaissait le cousin du beau-frère, de l'ambulancier, enfin je vous passe les détails, et qui revient en me disant « Bon, ça va, il a un bras cassé, mais ça va aller, enfin il est dans l'hélico, il va à l'hôpital, oui, il est abîmé, quoi. » Mais voilà. Alors que les images, quelque part, parlaient peut-être d'elles-mêmes, mais c'est facile à dire après coup. Et en tout cas, sur le moment, comme j'avais pas visuellement accès aux images, j'étais dans le déni. Et on était en colère. La direction de course, la course repart, mais il y a des pilotes qui sont pas repartis. Éric Comas, parce que lui est le seul à être passé sur les lieux de l'accident, parce qu'il repartait des stands, enfin, il s'est arrêté pendant le drapeau jaune. Et lui, il était tellement choqué par ce qu'il a vu, parce qu'il était sorti de l'auto, il a vu, et voilà, il est rentré au stand, il est pas reparti, hein, il pouvait plus courir. Démonil, je peux vous dire que c'était quand même pas évident de repartir quand. Et donc voilà, il fallait partir, et voilà, the show must go on, la course continue, et à la direction de course, c'était un peu la panique, hein. Bon, c'était à l'italienne en plus, évidemment, mais je me souviens de Gerhard Berger, même en colère, quoi, hein, qui venait gueuler, parce que je crois qu'il avait abandonné à un certain stade de la course. Il y a eu Michele Alboreto dans les stands avec la Minardi qui a renversé trois mécaniciens, avec des jambes cassées, des blessés dans les pistes. Enfin, ben, arrêtons le massacre, quoi, au secours, le jeu n'en vaut pas la chandelle, ça suffit, stop. Et Bernie qui était parti dans son hélico avec la caisse, quoi, hein, comme d'habitude. Donc ça, c'était, ça avait un côté révoltant, et voilà. Mais après l'arrivée, on se retrouve dans le paddock, on est tous complètement détruits, avec toutes les rumeurs qui circulent, mais sans rien d'officiel ou sans voilà. Donc moi, je suis tellement au bout du roule que voilà, je retrouve voir mon pote, on prend la bagnole et on se casse, quoi. Et c'est à la radio, sur la route du retour, qu'on apprend que voilà.
Et attention, attention, le reporter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Cabrini.
Neste momento, a médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva, no comunicado oficial do Hospital Maggiore de Bolonha. Morreu Ayrton Senna da Silva.
Le milieu de la F1, comment il réagit à ça?
Le ciel lui tombe sur la tête, quoi. C'est, Senna, c'était tellement, tellement le symbole de la, voilà, de la perfection, de la réussite, voilà, du contrôle, que c'était inimaginable. Alors, c'est pas bien de dire ça, mais Roland Ratzenberger, il avait une mauvaise auto, le type, il conduisait un peu au-dessus de ses limites, il fait un crash parce que l'auto était peut-être pas hyper bien préparée, ou qu'une suspension casse, ou que sais-je, et il tape au mauvais endroit, au mauvais moment, bon, il y a une forme de fatalité. Mais Senna, pas possible. Et donc, un peu, alors, avec un impact beaucoup plus grand que, parce que les anciens me parlaient, je me souviens, j'ai fait une émission avec John Henry, justement, le week-end d'Imola, les anciens me parlaient, par exemple, de la mort de Jim Clark. Jim Clark avait le même statut de, hein, de héros intouchable et de héros éternel par définition. Et voilà, le choc avait été, l'onde de choc avait été terrible dans le milieu à l'époque. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas le grand public n'était pas vraiment concerné, et il n'y avait pas le direct. Ici, c'était la mort en direct. Et ça, c'était, voilà, hyper, hyper choquant. Et aussi parce que les médias en faisaient les choux gras, parce que malgré tout, voilà, il y a une demande, il y a une émotion. TF1, je me souviens, ils ont fait des émissions à l'appel le lundi soir avec, je sais plus, Jean-Pierre Pernaut. Bon, on était tous convoqués à Paris, il fallait qu'on vienne. Et moi, j'ai pas voulu y aller parce que j'étais trop, voilà, trop touché, incapable d'exprimer ce que je ressentais.
Justement, en tant que journaliste. On suit le sport automobile, on est dans quelque chose de joyeux, etc. Comment on se retrouve, comment on fait dans une situation comme celle-là?
C'est la passion, finalement, qui est le moteur qui vous remet en marche, quoi. On est passionné par ce sport, on est passionné par ce qu'on fait, par ce métier. Mais moi, j'ai vraiment été dans un tunnel, comme ça, pendant une semaine, je me souviens. J'ai pas quitté... mon appart à Monaco, Thierry Boutsen et les autres sont partis à Sao Paulo pour les funérailles. Alors j'ai regardé, je crois qu'il y a eu 4 heures de direct sur Eurosport. Enfin, ça paraît impensable, hein, aujourd'hui pour un enterrement. Au Brésil, c'était deuil national pendant 3 jours. Il y avait des millions de gens sur le parcours entre l'aéroport et l'église. Et le peuple tout entier était tellement bouleversé. Enfin, il y a des scènes incroyables. Et puis le Grand Prix suivant, c'était Monaco. Et donc le fait de pas devoir se déplacer, la communauté de la F1, le premier cercle, hein, donc on s'est un peu tenu les coudes, quoi. On s'est dit bon, voilà, ça continue. Bon, la voiture d'Ayrton ne courait pas. Il y avait une seule Williams ce week-end-là. Mais la série a continué. Il y a eu Karl Wendlinger qui a eu un terrible accident, qui a été dans le coma pendant 2 ou 3 semaines. On a oublié ça, mais ça a continué. Il y a eu un terrible crash de Pedro Lamy en essai chez Lotus. Il y a eu un gros crash de Montermini, je crois, avec la Pacifique au Grand Prix suivant à Barcelone. Enfin, alors il y a eu des réactions de la fédération qui ont été parfois excessives. Hein. On a mis des chicanes un peu partout, y compris au pied de l'eau rouge à Spa. Enfin bon, mais il valait mieux peut-être surréagir que ne rien faire. Et la sécurité en F1, que ce soit des voitures ou des circuits, a énormément évolué, malheureusement à cause de ça.